Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge.
Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une pièce qui a été créée en 1937, reprise en 1949, en 1950 et, pour la dernière fois à ma connaissance, en 1958, Le voyageur sans bagage de Jean Anouilh. C'est une pièce en cinq tableaux. Et l'histoire est à la fois très simple, mais complexe dans son déroulement. L'histoire, elle est présentée tout à fait au début. Je vous lis la scène d'introduction. Dans un hôtel particulier, le maître d'hôtel, qui dois-je annoncer, madame ? La duchesse Dupont-Dufort, maître Huspard avoué et monsieur Gaston. Nous sommes bien obligés de donner ce nom jusqu'à nouvel ordre. Ah, madame la duchesse voudra bien excuser monsieur et madame la duchesse n'était attendue par monsieur et madame qu'au train de 11h50. Je vais faire prévenir immédiatement monsieur et madame de la venue de madame la duchesse. La duchesse, oh, parfait, ce maître d'hôtel. Elle s'adresse à Gaston. « Ah, mon petit Gaston, je suis follement heureuse. J'étais sûr que vous étiez le fils d'une excellente famille. » Le notaire, ne vous laissez pas emporter par l'enthousiasme. N'oubliez pas qu'en plus de ce renom, nous avons encore cinq familles possibles. « Ah non, maître. » Quelque chose me dit que Gaston va reconnaître ses Renault pour les siens, qu'il va retrouver dans cette maison l'atmosphère de son passé. Quelque chose me dit que c'est ici qu'il va retrouver sa mémoire. C'est un instinct de femme qui m'a rarement trompé. Le notaire, alors. Gaston s'est mis à regarder les tableaux. La duchesse. Eh bien, Gaston, vous êtes ému, j'espère. Gaston, pas trop. La duchesse, pas trop, oh, mon ami. Je me demande parfois si vous vous rendez compte de ce que votre cas a de poignant. Mais madame la duchesse, ah non, 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 rien. Rien de ce que vous pourrez me dire ne m'entrera mon idée de la tête, vous ne vous rendez pas compte. Alors, avouez que vous ne vous rendez pas compte. Peut-être pas très bien, madame la duchesse. Ah! Vous êtes tout au moins un charmant garçon, et qui sait reconnaître ses erreurs. Cela, je ne cesse de le répéter. Il n'en demeure pas moins que votre insouciance, votre désinvolture sont extrêmement blamables, n'est-ce pas, Huppard ? Si, si, il faut me soutenir, voyons, il lui faire comprendre qu'il doit être ému. Gaston. Gaston, madame la duchesse. La duchesse, êtes-vous de pierre ? De pierre. Oui, vous avez le cœur plus dur que le roc. Je ne le crois pas, madame la duchesse. Excellente réponse. Moi non plus, je ne le crois pas. Et pourtant, pour un observateur moins averti que nous, votre conduite laisserait croire que vous êtes un homme de marbre. Gaston. Vous ne comprenez peut-être pas la gravité de ce que je vous dis. J'oublie parfois que je parle à une amnésique et qu'il y a des mots que vous avez pu ne pas réapprendre depuis 18 ans. Savez-vous ce que c'est que du marbre, Gaston? De la pierre, c'est bien. Mais savez-vous quelle sorte de pierre ? La pierre la plus dure, Gaston, vous m'entendez ?
Gaston, oui.
Et ça ne vous fait rien que je compare votre cœur à la pierre la plus dure ?
Ben non, ça me ferait plutôt rigoler.
Ah, si vous êtes un des cas les plus troublants de la psychiatrie. Une des énigmes les plus angoissantes de la Grande Guerre. Et si je traduis bien votre grossier langage, cela vous fait rire. Donc Gaston, on l'apprend ainsi, a perdu la mémoire parce qu'il a été blessé à la guerre. Et vous êtes, comme l'a dit très justement un journaliste de talent, le soldat inconnu vivant. Et cela vous fait rire. Vous êtes donc incapable de respecter Gaston. Gaston, mais puisque c'est moi, il n'importe. Au nom de ce que vous représentez, vous devriez vous interdire de rire de vous-même. Et j'ai l'air de dire une boutade, mais elle exprime le fond de ma pensée. Quand vous vous rencontrez dans une glace, vous devriez vous tirer le chapeau, Gaston.
Moi ?
À moi ? Oui, vous, à vous. Nous faisons bien tous en songeant à ce que vous personnifiez. Qui vous croyez-vous donc pour n'être dispensé ?
Personne, Madame la Duchesse.
Mauvaise réponse. Vous vous croyez quelqu'un de très important. Le bruit que les journaux ont fait autour de votre cas vous a tourné la tête, voilà tout. Ne répliquez rien, vous me fâcheriez. Comment le trouvez-vous ? S'adresse au notaire.
Indifférent.
Indifférent, c'est le mot. Je l'avais depuis 8 jours sur le bout de la langue, je ne pouvais pas le dire. Indifférent, c'est tout à fait cela. C'est pourtant son sort qui se joue, que diable ! Ce n'est pas nous qui avons perdu la mémoire, ce n'est pas nous qui recherchons notre famille, n'est-ce pas ? Alors ? Il est impardonnable, en tout cas, de ne pas reconnaître le mal que mon neveu se donne pour lui. Si vous saviez avec quel admirable dévouement et le soin, quel cœur il met à cette tâche, j'espère qu'avant de partir, il vous a confié l'événement. Le docteur Jublin n'était pas à l'asile lorsque je suis passé prendre les dossiers des Gaston. Je n'ai malheureusement pas pu l'attendre. Que me dites-vous, maître ? Vous n'avez pas vu mon petit Albert avant votre départ, mais vous ne savez donc pas la nouvelle ?
Quelle nouvelle ?
Au dernier abcès de fixation qu'il lui a fait, il a réussi à le faire parler dans son délire. Oh, il n'a pas dit grand-chose, il a dit « foutriquer ».
Foutriquer ?
Foutriquer, oui. Vous direz que c'est peu de choses, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un mot qu'éveillé personne ne l'a jamais entendu prononcer. Un mot que personne ne se rappelle avoir prononcé devant lui. Un mot qui a donc tout le champ d'appartenir à son passé.
Foutriquer ?
Foutriquer, c'est un petit indice, certes, mais c'est déjà quelque chose. Son passé n'est pas un trou noir. Qui sait si ce foutriquer-là ne nous mettra pas sur la voie. Le surnom d'un ami, peut-être un grand familier, que sache. Nous avons au moins une petite base maintenant. Quand Albert est venu m'annoncer ce résultat inespéré, il m'a crié en entrant « Tante, mon malade a dit un mot sur de son passé, c'est un juron. » Je tremblais, mon cher, j'apprendais une ordure, un garçon qui a l'air si charmant. Je serais désolé qu'il fût d'extraction basse. Ce serait bien la peine que mon petit Albert ait passé ses nuits à l'interroger, à lui faire des abcès de fesses. Si le gaillard retrouve ça, sa mémoire pour nous dire qu'avant la guerre, il était ouvrier maçon. Mais quelque chose me dit le contraire. Je suis une romanesque, mon cher maître. Quelque chose me dit que le madame de mon neveu était un homme extrêmement connu. J'aimerais un auteur dramatique, un grand auteur dramatique. Un homme très connu, c'est peu probable, on l'aurait déjà reconnu. Les photographies étaient toutes mauvaises, et puis la guerre est une telle épreuve, n'est-ce pas?
Je ne me rappelle d'ailleurs pas avoir entendu dire qu'un auteur dramatique connu ait été porté disparu à l'ennemi pendant les hostilités. Ces gens-là notifient dans les magazines leurs moindres déplacements, à plus forte raison leur disparition. Ah, maître. Vous êtes cruel, vous détruisez un beau rêve. Mais c'est tout de même un homme de race. Cela, j'en suis sûr. Regardez l'allure qu'il a avec ce costume.
Ces confrontations à domicile sont une excellente idée, n'est-ce pas? Et la duchesse continue dans ses délires, sous forme d'interrogations, de questions qui n'ont pas de réponse. Et puis, petit à petit, Gaston va pénétrer dans cette infamie dont on lui assure qu'elle est la sienne. Il va faire la connaissance de celui dont on pense qu'il est le frère, Georges. Georges et Gaston sont ensemble et Georges essaie de trouver le moyen d'entrer en contact avec celui qui est peut-être son frère. Georges, ah, tu étais terrible. Gaston, tant que j'en aurai le droit, je vous demanderai de dire « il était terrible ». Oui, terrible, tu nous as causé bien des soucis. Et si tu reviens parmi nous, il faudra que tu apprennes des choses graves. Tu étais un enfant, que veux-tu, un enfant livré à lui-même dans un monde désorganisé. Maman, avec ses principes, se heurtait maladroitement à toi sans rien faire que te refermer davantage. Moi, je n'avais pas l'autorité suffisante. Tu as fait une grosse bêtise, oui, qui nous a coûté très cher. Tu as voulu monter une affaire. Toi seul pourras nous dire, si tu retrouves complètement ta mémoire, toujours est-il que tu as ensorcelé une vieille amie de la famille, tu lui as fait donner une grosse somme, tu étais soi-disant intermédiaire, tu signais de faux reçus. Un jour, tout s'est découvert, mais il était trop tard. Tu avais tout dépensé. Nous avons remboursé, naturellement. Et Gaston continue et révèle, plutôt Georges révèle, à celui qui est peut-être son frère, qui lui a pris sa femme, c'est-à-dire qu'il a eu une liaison avec sa belle-sœur. Et Gaston demeure abasourdi. Et Gaston va alors rencontrer celle qui est peut-être sa mère. Et très vite, il se rend compte qu'il n'a rien en commun avec cette femme aveuglée parce qu'elle croit avoir le droit d'exiger de ses enfants. Gaston, j'aurais préféré un modèle avec quelque joie. Un petit enthousiasme aussi, si c'était possible. Vous n'avez rien à m'offrir. Sa mère, je ne te comprends pas, mon petit. C'est pourtant bien simple. Je voudrais que vous me disiez une de ces anciennes joies
mes haines, mes remords ne m'ont rien appris. Donnez-moi une joie de votre fils, que je vois comment elle sonne en moi. Oh, ce n'est pas difficile, des joies, tu en as eu beaucoup, tu sais, tu as été tellement gâté. Eh bien, j'en voudrais une. Bon, c'est agaçant, quand il faut se rappeler comme ça d'un coup, on ne sait que choisir, dit au hasard. Eh bien donc, quand tu avais 12 ans, une joie d'homme, les autres sont loin. C'est que tes joies d'homme, tu ne me les disais pas beaucoup, tu vois. Un grand garçon, tu sortais tellement, comme tous les grands garçons, vous étiez les rois à cette époque. Gaston, vous ne m'avez jamais vu joyeux devant vous, mais tu penses bien que si tiens le jour de tes derniers prix. Non, pas les prix, plus tard. Entre le moment où j'ai posé mes livres de classe et celui où l'on m'a mis un fusil dans les mains, pendant ces quelques mois qui doivent être, sans que je m'en doute, toute ma vie d'homme. Mais enfin, à 18 ans, même si sérieusement qu'on joue à l'homme, on est encore un enfant. Il y a bien eu un jour, une fuite dans la salle de bain que personne ne pouvait arrêter. Un jour, la cuisinière a fait un barbarisme formidable. Nous avons rencontré un receveur de tramway comique. J'ai ri devant vous, j'ai été content d'un cadeau, d'un rayon de soleil. Je ne vous rends pas une joie débordante, une toute petite joie. Je n'étais pas neurasthénique. Je vais te dire, mon petit Jacques, j'aurais voulu t'expliquer plus tard et plus posément. Nous n'étions plus en très bon terme à cette époque, tous les deux. Oh, c'était un embardillage. Mais à cette époque, nous ne nous adressions plus la parole. Ah, pour des bêtises, ça a duré longtemps, presque un an. Et ainsi, Gaston apprend que le jour où le fils de la maison est parti à l'armée, personne ne l'a accompagné. Tu partais pour le front. Gaston, quel âge avais-je? 18 ans. Je ne savais peut-être pas où j'allais à 18 ans, c'est l'aventure amusante de la guerre, mais on n'était plus en 1914. Vous devez savoir, vous, où j'allais. Oh, je pensais que la guerre finit avant que tu quittes la caserne. Petit, tu étais toujours si cassant, si dur avec moi. Je vous propose une pause musicale. Thank you.
ainsi découvert que celle que, soi-disant, sa mère l'a laissé tout seul au moment où il partait sur le front. Gaston se retrouve en tête-à-tête avec l'épouse de celui qui prétend être son frère. Et elle va lui révéler une chose incontournable. Au cours d'une scène de jalousie, elle lui a porté un coup de couteau. Il a gardé la cicatrice de ce coup sous l'omoplate gauche. Or, elle n'en a parlé à personne. Et Gaston se retrouve seul. Et alors, il enlève sa chemise et dans le tableau 4 qui tient en deux pages, Devalet le regarde à travers la porte. D'après ce qu'ils disent, il est torse nu. Il regarde sous son omoplate jaune et il pleure. L'intrigue de la pièce est terminée. On sait que Gaston est bien celui que l'on croyait. Mais le tableau 5 va tout remettre en question. Parce que Gaston a décidé de ne pas assumer ce passé qui ne sent plus comme le sien. Il ne veut pas être ce fils non aimé, ce frère qui a trahi son frère. Il veut repartir dans la vie. Et c'est alors qu'entre en scène un petit garçon. Et ce petit garçon, bizarrement, est l'oncle de l'homme qu'il recherche. Parce que le grand-père a eu ce petit garçon très tard, et le jeu fait qu'il est beaucoup plus jeune que son oncle. Et pour Gaston, c'est une chance inespérée. Il va désormais choisir son avenir après avoir décidé d'oublier son passé. Alors, il a annoncé Madame la Duchesse. Je vous présente Maître Pickwick, solliciteur de la famille Madden-Sile, dont voici l'unique représentant. Maître Pickwick vient de m'apprendre une chose extrêmement troublante. Il prétend que le neveu de son client possédait à 2 cm sous l'omoplate gauche une légère cicatrice qui n'était connue de personne. C'est une lettre retrouvée par hasard dans un livre qui lui a dernièrement fait savoir l'existence de cette cicatrice. Maître Pickwick, lettre que je tiens d'ailleurs à la disposition des autorités de l'asile, madame, dès mon retour en Angleterre. La duchesse, mais enfin, cette cicatrice, Gaston, vous ne l'avez jamais vue, personne n'a jamais vu, n'est-ce pas, Gaston? Personne.
Elle est si petite, madame, que j'ai pensé qu'elle avait pu passer inaperçue.
Gaston, l'expérience est simple, voulez-vous regarder?
Le petit garçon, vous l'avez au moins cette cicatrice, je serais désolé que ce ne soit pas vous.
Gaston, n'ayez crainte.
C'est moi.
Vous ne vous rappelez rien de votre famille? Même pas un visage?
Tous les parents du petit garçon sont morts dans un naufrage. La duchesse.
Ah! La voilà. Mon Dieu, la voilà.
C'est exact.
Alors voilà. Ah! La duchesse, embrassez-moi, Gaston. Il faut que vous m'embrassiez. C'est une aventure merveilleuse.
C'est effrayant. Je vais peut-être m'évanouir.
Je ne crois pas.
Et la duchesse, ravie d'avoir résolu une de ces énigmes qui l'occupe à défaut d'autre chose, continue à papillonner. Et...
Gaston, avant de partir, laisse un message à sa famille. Vous direz à Georges Renaud que l'ombre légère de son frère dort sûrement quelque part dans une fosse commune en Allemagne, qui n'a jamais été qu'un enfant digne de tous les pardons, un enfant qui peut aimer sans crainte maintenant de ne jamais rien lire de lui sur son visage d'homme. Et il conclut, laissez-moi seul avec ma famille, il faut que nous confrontions nos souvenirs. Fin du voyageur sans bagage. Je ne peux m'empêcher de penser que si certains avaient le choix, ils aimeraient sans doute laisser leur passé sombrer dans le néant pour mieux choisir leur avenir. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Thank you.